Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est parfois une épreuve, parfois une étape. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la séparation, ou plutôt des séparations, car elles sont multiples. Et leur impact sur nos conduites, sur la poursuite de nos existences, une fois ce cap passé, peut prendre des allures très différentes. Nos vies sont ponctuées de séparations, de la naissance à l'issue fatale. On change de classe, on déménage, on quitte le cocon familial. Nous rencontrons de nouveaux amis et en laissons d'autres derrière nous. Une rupture amoureuse, bien sûr, qui peut laisser des traces, des regrets ou même de profondes blessures, parfois plus longtemps que l'on souhaiterait, et on tente de comprendre pourquoi cette désunion est si douloureuse. Une quête pour dépasser cette séparation, reprendre espoir et construire demain une autre relation sans avoir peur de renouer avec les sentiments abîmés par cette épreuve. Trouver des solutions pour retrouver confiance, y compris en allant puiser dans son passé, dans ses expériences, pour comprendre où prendre appui et éventuellement ce qu'il faut accepter ou changer pour retrouver la force de faire à nouveau des projets. Réussir la séparation pour tisser des liens adultes, c'est le titre de votre livre. Moussa Nabati, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychanalyste, thérapeute, chercheur. Votre ouvrage est publié par les éditions Fayard. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Sénégal Oumou Kiane, psychologue clinicienne à l'hôpital de Fann de Dakar. Et puis rupture, séparation, soigner ses blessures, reprendre confiance. On attend bien sûr vos questions, vos témoignages sur notre numéro 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur les rythmes biologiques, en particulier la question du sommeil des adolescents. Nous en parlerons avec le docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée.
Priorité santé sur RFI.
Moussa Nabati, une première clarification que vous établissez dès le début de votre ouvrage, c'est bien de faire la distinction entre la rupture et la séparation. Toutes les séparations ne sont pas douloureuses.
Et non, toutes les séparations ne sont pas douloureuses parce que, en fait, la souffrance la plus importante provient, si vous voulez, des ruptures. C'est-à-dire que le sujet se sent abandonné, se sent rejeté, et la plupart du temps, malheureusement, alors qu'il a été victime d'un abandon et d'un rejet, il se croit coupable. C'est ce que j'appelle effectivement la culpabilité de la victime innocente. Mais dans le livre, ce que j'essaie de montrer, c'est que en fait, à l'intérieur de la personne, il y a au moins deux personnes qui habitent. Il y a l'adulte, évidemment, qu'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il vit dans le présent, mais il y a aussi le petit garçon, la petite fille qu'il a été dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personnalité est construite de la partie adulte et de la partie petit garçon, petite fille. Or, ce qui est absolument insupportable et très douloureux dans le processus de la rupture, c'est la souffrance de l'enfant intérieur, ce que j'appelle dans le livre l'enfant intérieur. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand il y a une séparation, même à l'amiable, ou quand il y a une rupture, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs la preuve de la santé psychique que la personne souffre. Mais l'essentiel, c'est de savoir quelle est l'intensité de la souffrance et quelle est la fréquence de la souffrance. C'est-à-dire que quand la souffrance est, je sais pas, pour donner une image, je dis 3, 4, 5 kilos, vous voyez, c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire qu'on réagit sainement à la situation. Mais quand la souffrance est 5 tonnes et qui arrive à écraser le sujet sous le poids, et de sorte que le sujet, enfin, il tombe dans une dépression, il ne peut plus s'occuper de lui-même, il ne peut plus avoir de projet, il ne peut plus travailler. Alors ça montre bien que la douleur de la séparation. Enfin, c'est comme si c'était un
couteau. Ça veut dire que nous ne sommes pas égaux face à la séparation.
Nous ne sommes pas égaux face à la séparation. Et donc, ça dépend effectivement, puisque la séparation, enfin, la rupture, c'est comme une espèce de test. Et en même temps, ça dépend. Enfin, ça met montre la solidité ou les fragilités de l'enfant intérieur, du petit garçon, de la petite fille qu'on a été dans le temps.
Alors, vous écrivez même précisément, si l'attachement originaire à la mère a été précocement interrompu, l'enfant ne pourra pas se séparer dans la paix. Malgré tout, Moussa Nabati, il y a des personnes qui ont eu des parcours très accidentés, des orphelins, et malgré tout, qui ont en eux une force spéciale. Ce n'est pas parce qu'on a été un enfant malheureux qu'on ne sera pas pour autant un adulte assez résistant à l'épreuve.
Absolument, absolument. D'ailleurs, quelquefois, le fait d'avoir souffert dans son passé, eh bien, ça peut fortifier la personnalité et ça peut donc donner beaucoup d'énergie par rapport, enfin, préparer la personne à des épreuves qu'il peut avoir plus tard. Mais l'essentiel, c'est quand même, quels que soient les accidents de la vie, l'essentiel, c'est d'avoir vécu quand même à un moment ou à un autre un lien d'amour, un lien de confiance, un lien de sécurité. Et après, une fois qu'on a vécu ce lien d'amour, eh bien, ce lien et même la personne s'intériorise et ça devient comme une espèce d'ange gardien. Alors que, parce que la plupart du temps, quand la séparation est douloureuse ou quand la rupture devient douloureuse, c'est parce que le sujet, il se retrouve dans une espèce de désert et il n'a pas ce lien intériorisé, il n'a pas cette armature intérieure qui lui permet effectivement, d'avoir un système immunitaire de défense, si l'on peut dire, voyez, par rapport à des accidents de la vie.
Alors des parcours très différents qu'on voit dans ce livre, parce que votre ouvrage se décline en 11 prénoms, ce sont autant de récits de vie et justement les gens racontent ce qui leur arrive, leur mal-être, et derrière, il y a justement toujours pratiquement des séparations mal cicatrisées.
Voilà. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas pu... parce qu'en fait, quand l'enfant naît, il n'est pas comme un animal, parce que les animaux, quand ils naissent, quelques heures après ou quelques jours après, ils deviennent autonomes, ils deviennent indépendants. Et alors, ce qui frappe les êtres humains, c'est cette histoire de prématuration. C'est-à-dire que la grossesse, après 9 mois, ça ne s'arrête pas. Il y a pratiquement comme une espèce de grossesse extra-utérine. Donc la grossesse continue et l'enfant a besoin d'être tout à fait enveloppé et tout à fait et continuer à se nourrir du sein, enfin du lait maternel. Alors à partir du moment où cette fusion continue pendant quelque temps, eh bien l'enfant peut acquérir une espèce de force intérieure et de se constituer pour arriver à se détacher de la mère ou de la personne qui la représente en quelque sorte, pour pouvoir après s'engager avec d'autres, rentrer en lien d'amour et d'échange et de réciprocité avec les autres, et éventuellement, si la situation le nécessite, pouvoir se séparer sans que
ça soit bloqué, ne soit remis en cause, sans être fragilisé
sans
totalement,
sans que ça soit vital, sans que son identité soit, donc il y a une espèce de tremblement au moment parce que la séparation est douloureuse, mais sans qu'il s'effondre avec la possibilité effectivement de pouvoir se relever et de se construire.
Alors Moussa Nabati, votre travail c'est justement donner à ces personnes qui viennent voir la connaissance, la compréhension et aussi surtout l'acceptation de ces premières blessures.
Absolument. C'est-à-dire déjà mon travail le plus important, c'est déjà d'amener les personnes, nos patients, à faire cette distinction qui me paraît absolument fondamentale entre l'adulte et l'enfant intérieur. C'est-à-dire arriver à comprendre qu'en fait, ça n'est pas la personne adulte qui souffre atrocement dans ici et maintenant par rapport à des épreuves, par exemple l'épreuve de la séparation ou de la rupture, mais qu'il vient de recevoir un couteau dans une plaie ancienne. Donc, en fait, de comprendre que la douleur, c'est surtout une douleur qui vient de son passé.
Et qui est ravivée.
Comment ?
Et qui est ravivée.
Qui est ravivée. Alors c'est pour ça que, alors souvent les gens par rapport à la à cette douleur de la séparation, ils ont tendance à vouloir absolument s'en débarrasser dans un état d'impatience, en recourant à des techniques ou à des produits extérieurs. Donc mon travail le plus important, c'est d'arriver alors voilà à faire cette distinction, séparation entre l'intérieur, l'extérieur, l'adulte et l'enfant. Et puis la chose la plus importante, je crois que c'est de ne pas être dans l'urgence et de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans le combat, parce que le combat en fait non seulement ne résout absolument rien, mais ça ne peut qu'aggraver les choses. Et de faire une espèce de pèlerinage dans son passé, d'être dans l'accueil du petit garçon, de la petite fille, parce qu'en fait, c'est pas l'adulte qui souffre atrocement, mais c'est le petit garçon et la petite fille qui souffrent. Et le fait même de si vous voulez, de repérer cet enfant intérieur et d'être à l'écoute de sa détresse, c'est déjà 50% de l'apaisement et de la guérison.
Moussa Nabati, restez avec nous. On va tout de suite prendre en ligne les auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et pour commencer, nous partons pour le Ghana, à Accra, où l'on retrouve Obed. Bonjour Obed.
Bonjour, Karine Paré.
Moussa Nabati vous écoute.
Oui, effectivement, je veux participer à l'émission. Et c'est la question de séparation familiale ou bien de rupture amoureuse. Mais moi, pour la séparation familiale, je me suis séparé de mes parents, ça fait vraiment 5 ans, du Togo à Accra. Mmh. Et bon, j'ai pas vu beaucoup de problèmes parce que de temps en temps, par exemple un an, je vais là-bas pour les visiter. Et puis j'ai la confiance parce que ils sont toujours là, donc ils vivent et puis donc j'ai toujours de confiance à eux. Donc je vis bien ici, il n'y a pas de problème parce que je peux prendre soin de moi-même. Maintenant, pour la séparation amoureuse, rupture amoureuse, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que au lycée, j'avais tombé amoureux d'une fille qui n'est pas qu'on s'est séparé prématurément. Et puis ça donne une source à moi et je n'ai pas confiance aux filles encore.
Alors, excusez-moi, Obed, j'ai quelques petites questions à vous poser. Cette jeune fille, vous étiez restée combien de temps avec elle et dans quelles conditions s'est déroulée votre séparation?
D'accord, on s'est ensemble, ça fait 2 ans. Oui, on était ensemble 2 ans. Et puis, on s'est séparés parce qu'elle aime un autre garçon. Et puis, c'est comme ça. Et puis, moi, je n'aime pas ça. Donc, on s'est séparés à cause de ça.
Elle entretenait une autre relation en même temps qu'elle était avec vous.
S'il vous plaît, pardon?
Elle avait un autre copain en même temps que vous.
Oui, c'est ça. Donc, ça fait 5 ans, je n'aime pas les filles. Je ne les aime pas.
Ça veut dire que vous n'arrivez plus à retisser de lien, vous n'avez plus de nouvelles copines depuis que cette affaire est terminée.
Oui, effectivement.
Un problème de confiance, Moussa Nabati. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Obed?
Oui, la première chose que je pourrais lui dire, c'est qu'en fait, il dit qu'il sait qu'il doit quitter cette fille, mais qu'il n'y arrive pas. Donc, ça montre que dans des situations comme ça, effectivement, on est face à une... que l'adulte est un peu trop maigre par rapport à l'enfant intérieur, c'est-à-dire que l'adulte est emporté par une espèce de torrent émotionnel, et sa raison ne fonctionne pas trop bien, parce qu'effectivement, il sait qu'il doit... que cette fille est avec un autre homme, il sait qu'il doit la quitter, mais il n'y arrive pas, parce que effectivement, il y a l'emprise du petit garçon en lui par une espèce d'excès émotionnel, et sa raison, sa réflexion ne fonctionne pas de façon suffisante. Mais ça montre aussi qu'effectivement, il est dans un état de dépendance affective, enfin, le petit garçon en lui, et donc ça manque de confiance en lui. Mais je dirais que en fait quand on parle de manque de confiance en soi, ça provient dans la majorité des cas non pas d'un manque de capacité, mais d'un manque d'amour de soi. C'est-à-dire que, voilà. Alors, cette situation est intéressante parce que ça peut lui montrer, effectivement, ça peut lui donner des leçons, et non pas pour récupérer cette bien-aimée, mais ça peut lui donner des leçons dans le sens de la connaissance de lui-même, qu'il est effectivement, le petit garçon en lui est très important, il a un excès d'émotion, pas suffisamment de réflexion, et qu'il est effectivement dans des situations de dépendance parce qu'il ne s'aime pas suffisamment, et peut-être parce qu'il ne s'aime pas suffisamment, qu'il va peut-être vers des personnes qui ne sont pas disponibles.
Aujourd'hui, Obed, vous ne voulez pas lier de nouvelles relations parce que vous avez peur qu'on vous trahisse à nouveau ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, effectivement, récemment, cette année, quand j'ai changé du pays, cette année, il y avait une fille qui... effectivement, c'est elle-même qui m'avait séduit et ça m'avait donné beaucoup de temps avant que j'ai répondu. Alors, après, ça fait 2 mois plus tard, j'ai rendu compte que elle aussi, elle avait un autre garçon. Et puis, elle cachait ça. Et puis, c'est par après, avec le message que le garçon lui-même m'a appelé. Il me disait que c'est comme ça, c'est comme ceci, que la fille l'appartient. Et puis, ça m'a donné beaucoup de problèmes psychologiques. C'est comme, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, la fille, là, est présentement, ils sont dans la même église. Et puis, à chaque dimanche, on se voit. Mon problème, c'est qu'on se voit chaque dimanche, ça me donne beaucoup de
tourments.
De problèmes psychologiques. Je ne veux pas la voir plus que quelque chose arrive. Je veux que ce soit séparé d'elle définitivement.
Et mais, Obed, vous n'avez pas la possibilité de changer de paroisse pour aller dans une autre église et ne plus la voir ?
Pas de possibilité.
Non.
Oui, ben c'est ce qui montre effectivement une espèce de dépendance affective, si vous voulez, de l'enfant intérieur, parce que c'est pas la réalité qui nous empêche de prendre des mesures. Effectivement, on peut aller dans un autre endroit, et voilà. Donc, mais si on n'arrive pas à le faire, c'est parce que
faut s'en donner les moyens.
Voilà, parce que alors il y a une expression qui dit qui a envie trouve des moyens et qui n'a pas envie trouve des prétextes. Donc c'est possible tout à fait sur le plan de réalité, mais en tout cas c'est pas un changement de réalité qui est important dans des cas comme ça. C'est cette espèce de face à face avec soi, c'est-à-dire de comprendre que voilà, que peut-être que dans cette situation on s'attache à des gens qui ne sont pas disponibles et qui n'ont pas de la valeur nécessaire, et que ça révèle effectivement le manque d'amour de soi. Alors on peut changer d'église et aller à un autre endroit, mais si ce manque de confiance et ce manque d'amour en soi continue, il est probable que dans une autre relation amoureuse, eh bien, ce manque d'amour de soi et confiance en soi se révèle et qu'on soit toujours face un peu au même scénario d'échec.
Mais malgré tout, Obed, vous avez fait la démarche d'en parler, c'est déjà un premier pas important. Ça
absolument.
Veut dire que vous voulez changer la
absolument.
Situation.
Absolument, absolument.
On vous souhaite une très bonne journée à Accra, Obed, et on va partir tout de suite pour le Congo-Brazzaville, pour Brazzaville précisément, où l'on rejoint Percé. Bonjour, Percé.
Bonjour.
On vous écoute, Percé.
En fait, je voulais intervenir à l'émission parce que j'ai également, moi, une préoccupation qui va dans le même sens que mon cher frère qui venait de précéder.
Oui.
J'ai connu une demoiselle et avec qui nous avions pu passer 5 ans de relation. Malheureusement, par la suite, il y a eu des histoires qui se sont ajoutées et bêtes. Ça a créé une rupture autour de nous. Mm-hmm. Et j'ai comme l'impression que malgré que cette rupture ait eu lieu, il y a en quelque sorte quelques affinités qui traînent, puisqu'à tout moment, je reçois ces SMS, ces messages, par le canal de ses sœurs, et voilà. Donc, du coup, je suis un peu dans le que faire.
Vous êtes séparés, mais vous avez l'impression que ce n'est pas complètement fini, c'est bien ça ?
C'est bien cela.
Et vous avez envie de passer à autre chose, ou vous voulez justement renouer ?
Non, je ne veux pas vraiment du tout remuer, mais sauf que j'ai comme l'impression que quand je veux faire un pas à gauche, il y a quelque chose qui m'attire encore vers elle, donc du coup je suis un peu perplexe.
Alors pourquoi vous ne lui adressez pas un message pour lui dire que vous ne voulez pas renouer avec elle, Percé ?
Bah, le message, oui, mais sauf que j'apprends déjà qu'elle est dans un foyer, entre guillemets, mais donc du coup je ne voudrais pas faire des messages pour ne pas que ça lui attire devant nous.
Alors, ce que nous dit Percé, Moussa Nabati, c'est que il a un petit peu du mal à faire entendre sa volonté.
Oui. Bon, enfin, déjà, d'abord, je voulais répondre aux deux questions qu'il pose. C'est est-ce que c'est normal d'y penser? Voilà. Est-ce que c'est possible de finir par l'oublier? Voilà. Alors déjà, je voudrais répondre à cette question en disant que voilà, quand on a eu un premier amour, c'est très important. Voilà. Donc après, si c'est ce premier amour, évidemment, ça a été décevant, ça n'a pas pu achever, se concrétiser. Eh bien, c'est tout à fait normal de continuer à y penser, peut-être même, je sais pas moi, toute sa vie. Et il ne faut pas essayer de s'en débarrasser. Il ne faut pas essayer de tout faire pour l'oublier, parce que justement, par rapport à nos émotions. Plus on est dans le combat et plus on veut s'en débarrasser, et plus on s'affaiblit, plus on les rend fortes, et plus en fait on est face à des situations d'échec. Mais ce qui me paraît aussi intéressant dans l'histoire de Percé, c'est que ce qui est très malsain pour le psychisme, c'est justement cette espèce d'ambiguïté. C'est-à-dire, l'ambiguïté peut durer un peu de temps, mais je pense que si l'ambiguïté perdure, après on est complètement déstabilisé, on ne sait pas, comme dit l'expression, à quel sens se vouer, et vraiment c'est tout à fait toxique pour le psychisme humain. Donc une fois, passé le stade, enfin on appelle ça l'ambivalence, l'ambiguïté, il faudrait effectivement miser sur l'adulte, que l'adulte décide si la situation, enfin si la relation peut être viable et vivable, et sinon, je pense qu'il faut effectivement, tout en se disant qu'on aime cette personne. Parce que c'est pas parce que vous aimez quelque chose que vous ne pouvez pas y renoncer. Justement, il y a des choses qu'on peut aimer dans la vie, et puis l'adulte en vous dit voilà, tu aimes ça, mais c'est pas, par exemple, un diabétique, il aime le sucre, mais l'adulte en lui dit voilà, tu aimes ça, mais c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ton avenir. Effectivement, l'amour, ça ne veut pas dire absolument la consommation. L'amour peut effectivement encourager au renoncement. Donc, Percé dans une situation, ce qui est très mauvais pour lui, c'est effectivement cette ambivalence, cette hésitation, des allers-retours.
Donc il faut adresser quand même un message assez clair pour pouvoir se sortir de cette situation.
Il faudrait déjà qu'il envoie, Percé, un message très clair à lui-même, à son enfant intérieur, et de savoir ce qu'il veut, et de donner les moyens pour effectivement de réaliser son souhait, c'est-à-dire soit il y a une union possible, et si l'union n'est pas possible, eh bien il ne faudrait pas prolonger la situation qui n'est ni bonne pour lui ni bonne pour l'autre. Et justement, je profite de cette situation pour faire une petite parenthèse, c'est que la définition d'une bonne action, c'est quelque chose qui est bon pour les deux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se sacrifie, ou il n'y a pas un qui sacrifie l'autre pour son égoïsme. Donc une bonne action, c'est une action qui est à long terme et profitable pour les deux. Et dans cette situation, c'est s'unir ou effectivement se séparer. Même si les traces de l'amour peuvent effectivement perdurer encore longtemps. Mais c'est pas grave.
Voilà, Percé. On vous souhaite une excellente journée. À Brazzaville, on part pour le Bénin, pour Cotonou, où l'on rejoint Jonathan. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour, Caroline.
Moussa Nabati est à votre écoute. On vous écoute.
Ouais, en fait, moi, quand vous parlez de la séparation, c'est un peu... je ne sais pas pourquoi les gens conçoivent la séparation au sens amoureux. Sinon, moi, à mon niveau, la séparation, de mon côté, c'est le départ prématuré de mes deux parents. À 2 semaines, sinon à 4 semaines après ma naissance, mon père est mort. À 18 ans, lorsque j'étais en première, ma mère aussi est morte. Donc, le décès de mes parents a laissé une trace historique dans ma vie, jusqu'à tel point où, même si quelqu'un tombe évanoui aujourd'hui à côté de moi, ça ne me dit apparemment rien, puisque je ne consens plus. C'est comme si... enfin, je ne comprends pas. Je ne consens plus. Donc, Je sais que c'est le départ prématuré de mes parents qui a fait ça. Aussi, plus rien ne me fait plus peur, parce que je crois que, sinon j'espère que... Enfin, en tout cas, j'espère quand même que mon état va revenir, en tout cas. Je ne sais pas si un jour je peux surpasser à cette difficulté. Ça, en fait.
Ce que vous nous dites, Jonathan, c'est que vous n'avez l'impression de ne plus avoir de sentiments, vous n'avez plus de ressenti, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça, Caroline.
Et y compris dans des amitiés, vous avez des personnes qui vous disent des choses, des personnes qui tiennent à vous. Est-ce que vous ressentez quand même des choses par rapport à ces personnes?
Oui, et en fait, après le décès de mes deux parents, la famille, elle, en fait, qui m'a soutenu, la famille m'a soutenu jusqu'à un tel point. Malgré leur soutien, je ne sais pas pourquoi, malgré leur soutien, ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie. Donc, même si les amis parlent à côté de moi, même si les amis font des choses qui paraissent un peu ridicules, ça ne change rien, apparemment rien.
Ce que nous dit Jonathan Moussa Nabati illustre ce que vous disiez tout à l'heure. La blessure initiale n'est pas du tout cicatrisée.
Absolument. Mais d'ailleurs, je dirais que Jonathan a perdu son père un mois après sa naissance. Alors, je dirais qu'en fait, il n'a pas perdu que son père, parce que quand on est orphelin des deux. C'est-à-dire, en ayant perdu son père, sa mère certainement a dû être dans un état vraiment de détresse, absolument extraordinaire, et donc de dépression. Et en fait, quand on perd un de ses parents, le triangle se brise et on perd finalement les deux. Parce que l'autre parent n'arrive pas à vivre non plus. Et ce qui m'intéresse, enfin, me touche beaucoup dans l'histoire de Jonathan, c'est que une fois ces drames arrivés, bien sûr. Alors après, bien sûr, il a été pris en charge de façon
par la famille.
Par la famille, etc. Mais enfin, ça n'a pas remplacé les parents. Et à l'âge adulte, dans ce tableau, la plupart du temps, les gens qui ont eu des blessures aussi importantes, ils n'osent plus s'engager dans de nouvelles relations d'amour ou d'amitié, comme si il y avait le traumatisme premier, comme si je m'engage, il va arriver les mêmes catastrophes qu'après, comme ça m'est déjà arrivé, et comme si, en plus, ça sera de ma faute. Parce que, comme si ma naissance, mon arrivée au monde,
une sorte
a finalement,
de fatalité.
Voilà, mon arrivée au monde, ça a amené des drames. C'est à cause de moi que mon père est mort. Et, vous voyez, donc évidemment, il y a une relation de corrélation, de coïncidence, qui est interprétée par le psychisme, par l'inconscient, comme une relation de cause à effet.
Et il faut dire que c'est faux. Il faut apprendre
entendu,
à dire, évidemment, c'est faux.
Il faut distinguer les relations, si vous voulez, les corrélations, ne pas confondre corrélation et causalité.
C'est pas parce que c'est arrivé que j'y suis pour quelque chose.
Absolument. Donc mais il en reste pas moins que le petit garçon en lui, il a gardé cette espèce de culpabilité d'avoir perdu ses deux parents, j'insiste encore là-dessus. Et après, l'engagement devient difficile parce que m'engager, alors je préfère ne pas m'engager parce que comme ça il y aura pas de rupture et comme ça je ne sème pas la désolation autour de moi.
Alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Jonathan pour qu'il aille mieux?
Ce qu'on peut lui conseiller, c'est voilà, il y a une différence entre le petit garçon, enfin l'enfant intérieur et l'adulte, et il y a une différence énorme entre le passé et le présent, et voilà, et que la vie continue. D'ailleurs, la preuve, c'est que malgré tout, il a pu continuer sa croissance et être en vie. Donc, moi, je dirais que rien que voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, enfin, grâce à un accompagnement, il peut, au lieu de se désoler d'avoir perdu ses parents, il peut essayer de réhabiliter ses parents intérieurs, c'est-à-dire devenir sa propre mère en prenant soin de lui-même comme une gentille maman vis-à-vis de son enfant, en se donnant des limites comme un papa vis-à-vis de son enfant, etc. Et puis voilà, je terminerai en disant que voilà, c'est une façon de refaire vivre, si vous voulez, enfin, de faire honneur à ses parents, que de s'engager dans des relations d'amitié et dans des relations d'amour pour que la vie continue et qu'il ne reste pas coincé dans un stade de son passé.
Jonathan, est-ce que après ce que vient de dire Moussa Nabati, est-ce que vous avez des gens à qui en parler autour de vous justement pour expliquer ce que vous ressentez, pour essayer de guérir en fait ces blessures de votre enfance?
Bien sûr, Caroline, j'ai parlé de cela auprès des amis, même auprès des aînés, qui m'ont conseillé approximativement ce que vient de me conseiller votre invité. Mais je ne sais pas.
Ça ne marche pas pour l'instant. Est-ce que vous avez les moyens d'aller consulter un psychologue, d'aller voir un spécialiste qui pourrait justement parler un petit peu plus longtemps avec vous?
Non, je n'ai pas assez de moyens pour faire ça.
Vous n'avez pas de moyens pour le faire.
Justement.
En tout cas, déjà en parler, déjà nous appeler, c'est prendre conscience de ce qui vous tracasse et continuer ces échanges avec votre famille, avec vos amis pour essayer un petit peu de dépasser toutes ces blessures. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée à Cotonou, Jonathan. Très bon courage à vous. Cette question, après tout ce que l'on vient d'entendre avec ces auditeurs de Priorité Santé, Moussa Nabati, il y a la parole, la réflexion sur ce que l'on a vécu. Est-ce qu'on peut dire que le temps peut tout réparer, oui ou non?
Et non, le temps ne peut pas tout réparer, mais le temps peut effectivement diminuer de l'intensité de notre souffrance et de la fréquence de notre souffrance, à condition qu'on ne soit pas dans le déni, à condition de le travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'occupe de soi, quand on établit une relation de confiance avec, je sais pas, enfin, préférentiellement avec un thérapeute et qu'on travaille sur sa souffrance, avec le temps, on peut arriver à une diminution très importante de la souffrance et à espacer les fréquences. C'est-à-dire, au lieu que je sois angoissé, déprimé tous les jours, je serai de temps en temps. Et au lieu qu'à chaque fois, ça soit un tsunami ou un volcan, ce sera une journée pas très agréable, mais c'est tout.
C'est-à-dire, d'ailleurs, on lit dans votre livre des personnes qui viennent vous voir en consultation. Certains de vos patients ont un grand âge. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a 50, voire bien au-delà, 70 ans, 75 ans, qu'il faut renoncer justement à se retrouver et à se sentir bien et à accepter justement les différentes étapes. On peut encore réparer à n'importe quel âge.
Absolument, il n'y a pas d'âge. Et voilà, mais enfin, ce qui se passe, c'est que en vieillissant, enfin, plus on vieillit, plus on se rapproche de son enfance, enfin du petit garçon, de la petite fille qu'on était. Donc il peut y avoir, et puis alors, plus on vieillit, moins on a aussi de divertissement dans la vie, c'est-à-dire on travaille pas, nos enfants sont grands, on n'a pas absolument la même vie sexuelle, la même vie alimentaire, etc. Donc en vieillissant, le face-à-face avec soi devient plus aigu. Et c'est là qu'on a besoin effectivement de continuer son chemin de croissance intérieure avec un guide, avec un accompagnateur. Mais rien n'est jamais trop tard, absolument.
Moussa Nabati, reste avec nous. On va rejoindre tout de suite le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver Oumouli Kane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fane de Dakar. Est-ce qu'en consultation, Oumouli Kane, les patients abordent souvent cette question des séparations douloureuses?
Oui, surtout des séparations douloureuses, des séparations entre guillemets heureuses. Il y en a très peu, mais j'en rencontre quand même. Et j'ai rencontré 3 familles. Où vraiment la séparation était vraiment moins douloureuse avec une organisation pour les enfants et tout. Et donc, bon, avec moins de souffrance aussi. Donc, je crois que ce qui peut prévaloir, c'est de ne pas trop s'entre-déchirer pendant les conflits et que chacun garde quand même une certaine réserve qui permet les retrouvailles et de renouer d'autres relations de partenaires.
Ça veut dire que certaines situations de crise au cours de ces séparations, on parle par exemple de divorce, nécessitent vraiment une médiation?
Oui, une médiation, surtout quand il s'agit des enfants aussi, ça pose de nombreux problèmes. Par exemple, mon papa est venu nous dire, voilà, d'un commun accord, je vais me séparer de ma femme. Mais je pense à mes deux enfants. Il a deux filles de 5 et 7 ans. Et il me dit, bon, quel impact ça va faire sur les enfants. Donc, bon, c'est qu'on ne peut pas prévoir les impacts. Chacun réagit par rapport à sa personnalité. Votre invité le disait tout à l'heure. Et je pense que, bon, c'est surtout la façon d'accompagner qui permet à l'individu comme nous que les choses soient plus atténuées, que la souffrance soit un peu soutenue pour quand même permettre une certaine résilience.
Est-ce que vous diriez au Moulikan que derrière beaucoup de séparations, de dépression, pardon, il y a en fait des séparations mal cicatrisées?
Oui, oui, oui. J'ai eu un couple, bon, c'était très grand, vous savez, les Sénégalais sont très grands. La femme faisait presque 1m80, l'homme était un peu plus grand. Et ils étaient venus pour la consultation de leur fille. Et ils se sont empoignés dans le bureau. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne voulais pas intervenir. Je me suis dit que bon, peut-être qu'il y a un accès qui n'a pas été crevé jusqu'à présent et qu'ils sont en train de le faire. Je n'interviens pas trop. Et je me suis dit, bon, s'ils se mettent à se taper dessus, comment je vais faire? Quand même, Dieu soit loué. Ils ne sont pas arrivés au coup, mais ils se sont dit toutes sortes de choses quand même assez désagréables.
Et derrière justement cette violence, vous aviez repéré quoi comme type de blessure non cicatrisée?
Surtout que la femme n'était pas d'accord pour le divorce. Elle voulait bien rester dans son ménage, mais le mari, bon. Et vous savez, le problème qui se pose aussi, c'est qui est derrière tous ces conflits-là? Est-ce que c'est des gens qui attisent le feu? Ou est-ce que c'est des gens qui essayent de l'éteindre? Toute la famille, la belle famille et tout. Au moins 5 ou 6 cas sur 10, quand les femmes viennent avec leurs enfants, ils disent, ma belle famille est derrière tout ça, ma belle-mère est derrière tout ça. Donc, quand il y a quelqu'un qui attise le feu, c'est plus dramatique encore.
Est-ce qu'il y a justement certaines ruptures particulièrement douloureuses qui peuvent aller vers le développement de certaines pathologies? On va parler de somatisation, des personnes qui viennent et qui disent « je souffre, j'ai mal là ». Et en parlant au Moulikan, eh bien vous découvrez qu'il y a eu derrière une rupture ou une séparation particulièrement complexe.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'autant plus que ici, bon, se plaindre trop parce qu'on se sépare de son mari. Bon, c'est mal vu, parce que tout simplement, on se dit, ah oui, il n'est pas meilleur que toi, pourquoi tu te plains, des choses comme ça. Et ceci fait que, bon, ce qui ne passe pas par l'apparence, passe par le corps, par l'expression corporelle. Et c'est des douleurs, c'est la dépression, c'est toutes sortes de choses qui font que, bon, on voit que le corps a mal, mais ça vient de loin.
Face à ce type de situation, Moulikan, comment se déroule votre prise en charge? Qu'est-ce que vous proposez?
Ce que je propose, c'est des entretiens. C'est des entretiens qui permettent quand même de voir un peu. C'est-à-dire qu'aussi, essayer à aider la personne à voir un peu plus quelle est sa part de responsabilité dans toutes ces histoires. Au lieu d'accuser l'autre, bon, c'est plus facile, c'est plus léger de se dire il est fautif, c'est lui le responsable, ça vient de lui seulement. Mais voir aussi soi-même quelle est sa propre part de responsabilité dans la rupture ou dans la séparation.
Merci beaucoup Moulikan pour toutes ces indications. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fann de Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Toujours avec nous pour la dernière partie de cet entretien, Moussa Nabati, psychanalyste, thérapeute, chercheur. On parle de la séparation, mais on pourrait parler aussi de l'impossibilité de rompre. Certaines personnes qui n'y arrivent pas, Moussa Nabati, justement des personnes qui ruminent l'envie de partir ou de laisser tomber, pour parler trivialement, mais malgré tout, poursuivent la relation, en quelque sorte, contre leur gré. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à tourner la page?
Ils n'arrivent pas à tourner la page parce que, si vous voulez, ils sont bloqués, ils sont coincés dans une situation. Et ils n'arrivent pas à tourner la page parce que, parce que ils ne s'aiment pas suffisamment. Parce qu'effectivement, rester dans une situation qui est douloureuse, rester dans une situation, dans une relation qui est pénible, dans une relation qui est source de souffrance, ça veut dire que le sujet a développé, enfin depuis très longtemps, une espèce de, enfin a nourri son côté masochiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment d'amour pour lui, ça veut dire qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas confiance en lui, ça veut dire...
Mais il a peut-être aussi simplement peur de faire mal à l'autre, Moussa Nabati.
Voilà, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire dans une position sacrificielle, et quand on a du mal, enfin quand on pense, quand on craint faire du mal à autrui, donc ça veut dire que, vous voyez, le fait d'avoir été abandonné dans son enfance, effectivement, ça donne l'idée que je suis mauvais. C'est-à-dire j'ai été abandonné parce que j'étais mauvais et à l'âge adulte ça continue. Alors l'idée, enfin le fantasme de la crainte de faire du mal à autrui, ça veut dire que je suis mauvais, je suis néfaste, je suis dangereux, je suis toxique et donc ça montre effectivement le manque d'amour de soi, le manque de confiance en soi, le sacrifice de soi et comme je disais tout à l'heure, plus on est dans le sacrifice de soi, enfin pour arranger, pour voilà sauver les gens, non seulement on perd sa vie et on souffre, mais en plus, cette attitude sacrificielle ne permet pas du tout d'aider les autres. Par exemple, quand une maman qui renonce à ses plaisirs pour donner encore plus à son enfant, eh bien, elle se sacrifie, bien entendu, mais elle sacrifie aussi son enfant parce que l'enfant ressent, voilà,
la frustration
de la mère. Et il devient de plus en plus endetté et de plus en plus coupable. Donc quand on n'arrive pas à rompre une situation qui est tout à fait délétère et qui est source de souffrance, bah ça traduit effectivement le manque d'amour de soi et l'image de soi est très très négative et le sacrifice de soi, voilà, c'est-à-dire que on essaye d'arranger les choses en renonçant à ses besoins et désirs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, une bonne action c'est une action qui est bonne pour un peu pour tout le monde, et une mauvaise action c'est une action qui est délétère pour tous les membres de la famille.
Et qui aura un retentissement pour tous. Merci beaucoup à Moussa Nabati d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, thérapeute, chercheur. Votre dernier livre s'intitule « Réussir la séparation pour tisser des liens adultes » publié aux éditions Fayard.
Priorité santé sur RFI.
Faut-il changer les horaires de la vie quotidienne pour mieux respecter nos rythmes biologiques ? Faire commencer par exemple les cours plus tard pour les adolescents, c'est lève tard, c'est pas le contraire, afin de favoriser leur sommeil. C'est ce que souhaite la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, suggestion sur la base d'une étude très sérieuse. C'est une étude américaine publiée par la revue Science Advances. En ligne avec nous, docteur Sylvie Royan-Parola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette étude américaine publiée en décembre dernier qui cible donc précisément ce sommeil des adolescents ? C'est bien cela ?
Tout à fait. En fait, ils ont retardé l'heure de prise de cours d'une heure. Moyennant quoi, on commençait à 9h. Ils ont noté que les adolescents avaient une attention beaucoup plus soutenue dans la journée et une humeur aussi plus stable et surtout que leurs résultats scolaires s'amélioraient. Ce n'est pas la première fois que ça a été montré. Il y a eu une étude déjà qui a été faite en Angleterre et publiée il y a 3-4 ans qui montrait la même chose. Et ça, bien sûr, d'autant plus que dans les pays anglo-saxons notamment, ils peuvent commencer très tôt, à 7h ou 7h30. Ce qui est vraiment très très tôt pour un ado.
Parce que le sommeil est propre à chaque période de la vie. En fait, quand on voit nos adolescents traîner au lit, docteur Sylvie Royan-Parola, on va dire, pour parler crûment, c'est pas parce qu'ils sont flemmards ou paresseux, c'est parce que c'est dans la nature.
Alors, il y a une partie nature, maintenant,
faut relativiser ce qu'on dit tôt ou tard.
De tout effort. Ils ont quand même une tendance à se décaler, à se coucher plus tard, alors à la fois parce que leur horloge est biologiquement décalé, c'est-à-dire que ils ont une sensibilité de la mélatonine à la lumière qui est différente, avec un blocage de la lumière qui est plus fort. Moyennant quoi, ils sécrètent plus tardivement la mélatonine dans ces conditions-là, dès lors qu'ils sont exposés à de la lumière. Et c'est vrai qu'ils ont socialement tendance aussi à essayer de retarder l'heure du coucher parce que c'est un moment où ils sont un petit peu tranquilles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et avec les nouveaux médias notamment, ils sont amenés à pouvoir parler, rencontrer, échanger avec des copains, même tard dans la soirée. Donc naturellement, ils se décalent, mais aussi comportementalement, ils se décalent aussi.
Alors, est-ce que, docteur Royan-Parola, est-ce que cette suggestion pour les adolescents, elle a déjà été appliquée dans d'autres contextes, pour d'autres populations? Je pense particulièrement à des populations avec des âges bien ciblés. On va parler par exemple des bébés ou des personnes âgées pour parler de ces deux extrêmes de la vie?
Alors, le décalage des horaires, en fait, aux différents âges de la vie, biologiquement, on n'a pas la même façon de réagir. Et notamment les bébés et les personnes âgées, enfin les bébés, les petits-enfants et les personnes âgées ont tendance plutôt à se coucher tôt et se réveiller tôt. Donc c'est pas du tout la même chose. Parfois on est amené, notamment chez les personnes âgées, à essayer de forcer un peu l'horloge pour qu'ils arrivent à s'endormir plus tard que 20h et arriver à tenir à 21h30 et comme ça se réveiller à 6h du matin et pas à 3h ou 4h du matin.
Et l'impact de ces changements, il est perceptible, on l'a vu pour la scolarité en termes peut-être de concentration et d'apprentissage. Est-ce que c'est vrai aussi tout simplement en termes, on va dire largement, même si c'est difficile à quantifier, de bien-être?
Alors oui, il y a un effet aussi sur l'humeur, enfin notamment chez les adolescents, parce que ce décalage d'horaire s'accompagne, quand ils sont en situation où ils prennent un cours assez tôt, d'une réduction du temps de sommeil qui est vraiment importante. Donc c'est une population qui a plutôt tendance à être en privation de sommeil. Donc là, il y a des effets sur l'humeur qui sont vraiment tout à fait évidents. Et dès qu'on peut décaler un peu et qu'ils dorment un peu plus. Dans d'autres populations, notamment chez les personnes âgées, ça peut être aussi un problème. Hein. Si la personne se couche très tôt et se réveille très tôt, elle va avoir dans la journée des grands moments de fatigue avec des moments de somnolence parce que elle est réveillée en fait depuis 3h ou 4h du matin.
Est-ce que c'est fréquent? Il nous reste peu de temps pour développer ce point qui est pourtant très intéressant. Est-ce que c'est fréquent que justement des administrations, des services publics fassent appel aux médecins que vous êtes pour parler de ces rythmes et essayer de changer les choses?
Alors, pour changer les rythmes, je pense que dans le milieu scolaire éducatif, en tout cas, ça a été fait pour la semaine des 3 jours, des 4 jours.
À l'école primaire, oui.
Plutôt, voilà. Mais sinon, c'est plutôt dans le milieu du travail où il y a appel à des spécialistes du sommeil pour essayer de réfléchir sur comment mieux organiser les rythmes de vie.
Merci beaucoup, docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre, présidente du réseau Morphée. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards.